Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En reprenant notre lecture du livre « Je croyais en Issa, j'ai rencontré Jésus », quand un musulman fervent est confronté à la grâce, ce livre écrit par Jamal Attar aux éditions Urania, nous retrouvons Jamal Attar en plein questionnement. Ce jeune homme, musulman fervent, est venu poursuivre ses études en France avec la volonté de partager sa religion avec autant de gens qu'il le pourra. Et à travers des étudiants chrétiens, voilà qu'il découvre la Bible, alors qu'il avait justement souhaité leur faire apprécier ce que lui connaissait du Coran, et bien entendu, il voulait faire connaître sa propre religion. Je commençais à me rendre compte que la Bible était autre que la représentation que j'en avais, et surtout que l'image que je me faisais de Jésus était tout à fait fausse. Dans le Coran, ces miracles étaient placés hors cadre, accomplis seulement pour prouver qu'il était le Messie. Dans la Bible, ils exprimaient beaucoup plus que cela. Par eux se manifestait la compassion de Dieu, dont Jésus était l'incarnation. Il était les mains de Dieu, ses pieds, son cœur. Ce qu'il faisait n'était pas inspiré par la volonté d'éblouir les autres, ni de leur prouver son identité de Messie, mais par la compassion à l'égard des pécheurs perdus et par l'amour envers eux. C'est pour cette raison qu'il a guéri le lépreux, multiplié le pain, redonné la vue à l'aveugle, délivré les possédés, bref, secouru tous les malheureux. D'étranger, Jésus me devenait de plus en plus proche. Sa proximité le manifestait davantage en ce qu'il a d'unique. Qui a, comme lui, consolé les pauvres, accueilli les êtres rejetés, pansé les blessures de tous les opprimés? Qui a, comme lui, parlé avec simplicité et grâce du Dieu qu'il aime, qui aime les malheureux et prend le parti des humiliés? Surtout, qui a, comme lui, révélé le Dieu Père de tous ceux qui placent leur confiance en lui? Il cessait peu à peu d'être un mot, un être vague, et prenait de plus en plus chair et os. Il devenait, au fur et à mesure de mes lectures et de mes discussions avec les chrétiens, l'homme de l'amour et du pardon, l'homme aux paroles captivantes, l'homme dont l'existence a été vécue pour les autres, amis ou ennemis. Le visage de Jésus donnait par contraste un drôle de relief à celui de Mohammed. Lisez dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, les versets 1 à 11, l'histoire de la femme que les Juifs voulaient lapider pour cause d'adultère. Jésus était alors dans le temple et enseignait la foule. Jean 8, 3 à 8. Les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. « Quelle sagesse dans la réponse de Jésus! Quelle justice, mais surtout, quelle compassion, quelle miséricorde, quel pardon! Écoutez, en effet, comment il s'adresse à cette femme, une fois que tous ses accusateurs sont partis et qu'il est seul avec elle. « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamnée ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Jean 8, les versets 10 à 11. Accusée par tous, elle a reçu le pardon de la part de Jésus, son Sauveur. Maintenant, imaginez le choc que peut ressentir face à ce texte un musulman habitué à lire des histoires telles que celle-ci. Une femme vint dire à Mohammed « J'ai commis l'adultère, purifie-moi ». Mais il la renvoya. Le lendemain, elle revint. « Ne me renvoie pas, je suis enceinte ». Mohammed lui répondit « Va-t'en jusqu'à la naissance de l'enfant ». Après avoir mis l'enfant au monde, elle revint avec l'enfant et dit « Voici l'enfant que j'ai mis au monde ». Mohammed répondit « Va-t'en et allaite-le jusqu'à ce qu'il soit sevré ». Une fois l'enfant sevré, elle vint vers Mohammed avec l'enfant qui tenait un morceau de pain dans sa main. Il devait avoir 2 ans selon la durée prescrite par le Coran pour l'allaitement. La femme dit « Messager d'Allah, le voici, je l'ai sevré et il mange de la nourriture solide ». Mohammed donna l'enfant à un musulman et prononça ensuite la sentence. La femme fut enterrée dans un fossé jusqu'à la poitrine et lapidée. Une note. Saïd Muslim, partie 29. Peine légale d'après la traduction de Marc à Gabriel. Jésus et Mahomet, Ourania 2007. Les pages 244-245. Cette histoire est couramment citée dans l'enseignement islamique comme une preuve de la miséricorde de Mohammed. Toute une section dans Muslim, intitulée « Peine légale », est très édifiante sur sa prétendue tendresse ou compassion. Quel choc quand les réactions de Jésus et de Mohammed sont confrontées. C'est comme si l'on admirait la lune et voilà qu'on découvre le soleil. Présentée comme une preuve de la miséricorde du prophète, cette histoire me semblait bien être telle tant que je n'avais pas eu connaissance de l'attitude de Jésus, qui en révélait l'absurdité et surtout la cruauté inouïe. Ne croyez pas que j'ai cédé face à tout cela. Non, je ne pouvais laisser le doute envahir mon esprit et je m'y refusais. Ce serait terrible de penser même une seule seconde que cela pouvait être vrai. Je commettrais le péché impardonnable. Ce péché, je l'aurais assurément commis si j'avais laissé mon esprit croire que Jésus était plus grand que Mohammed, ou plus grave encore, qu'il était le Fils de Dieu. C'était tout simplement impossible. Seulement voilà, le contraste entre Jésus et Mohammed grandissait de lecture en lecture. En réalité, les récits relatifs aux prophètes que je lisais, je ne les découvrais pas tous pour la première fois. J'en connaissais déjà un certain nombre. Toutefois, je ne les lisais plus comme avant, confrontée à l'amour inconditionnel que manifestait Jésus et à la manière dont lui avait traité ses persécuteurs, il devenait problématique pour moi. Il prenait un autre relief. Je voyais par exemple que Mohammed n'admettait aucune critique contre sa personne. Il ordonnait à ses compagnons de tuer tous ceux qui osaient le décrier. Ils devaient le défendre par leurs paroles, par leur vie, par leur mort, par leur épée. La tradition est remplie d'histoires d'assassinats ou d'exécutions de personnes qui ont, à un moment ou à un autre, dénigré la personne du prophète. Le nombre de personnes qu'il a tuées ou ordonné de tuer est impressionnant. Une seule histoire à titre d'illustration, car elle m'a bien dérangée. Un musulman aveugle était marié à une femme dont il avait 2 enfants. Son épouse ne pouvait s'empêcher d'insulter Mohammed chaque fois que son nom était prononcé devant elle. Le mari la reprenait souvent et la mettait en garde. Or, une nuit, il en est venu à parler du prophète et son épouse, comme à son habitude, n'a pas manqué de l'insulter. Il a alors saisi une barre de fer qui avait la forme d'une épée et l'a frappée jusqu'à ce qu'elle meure. L'aveugle s'est ensuite dénoncé auprès de Mohammed et lui a expliqué qu'il avait tué sa femme parce qu'elle l'avait insultée. La loi exigeait normalement que l'assassin soit tué à son tour, mais le prophète a déclaré l'assassin innocent parce qu'il l'avait vengé des insultes de la femme. Comment pouvait-il agir de cette manière s'il était prophète ? Me suis-je demandé à la fin de ma lecture. Je cherchais à chasser cette pensée, mais mon esprit était envahi par une autre. Comment Jésus aurait-il réagi, lui ? M'est alors revenue en mémoire la parole de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Jésus est en train de souffrir une mise à mort, pas une simple insulte, et pourtant il prie pour ceux-là même qui l'ont crucifié, afin qu'ils vivent et non qu'ils meurent. N'est-ce pas la seule réponse digne du vrai prophète ? Étais-je tenté de conclure ? Les apôtres de Jésus, témoins de sa vie, l'ont décrit ainsi. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. Et c'est vrai qu'il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant ceux qui le tont. Il n'ouvrait pas la bouche. Actes chapitre 8, verset 32. Une Bible falsifiée. Pendant tout ce temps, mes recherches pour trouver d'éventuelles erreurs dans la Bible restaient infructueuses. Daniel, sa femme Betty et les autres chrétiens de leur côté ne restaient pas les bras croisés, m'entendant toujours leur servir les mêmes objections. Ils entreprenaient de me prouver l'authenticité des Écritures. Leur principal argument était l'accomplissement de nombreuses prophéties, dont certaines étaient d'une précision renversante. Ils ne cessaient de me lire le psaume 22, écrit par David 1000 ans avant la naissance de Jésus, et qui décrit sa mort sur la croix avec des détails incroyables. Je cite, à titre d'exemple, 2 versets dans lesquels c'est le Messie Jésus qui parle. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Psaume 22. Les versets 17 à 19. Ce qui me tracassait, c'était la concordance entre l'Ancien Testament, livre des Juifs, et le Nouveau Testament, livre des Chrétiens, sur des points que le judaïsme n'admettait pourtant pas. Le meilleur exemple est celui d'Ésaïe 53, fameux passage de l'Ancien Testament que je me suis entendu citer de nombreuses fois. Il prophétise la mort du Messie Jésus et donne le sens et la raison de cette mort. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Il témoigne ainsi contre les Juifs de leur rejet de Jésus. Cependant, ceux-ci n'ont pas supprimé ni falsifié ce passage. Il se dresse aujourd'hui encore au milieu de leurs écritures comme un doigt accusateur et témoigne contre eux, car il est accompli de la manière la plus étonnante dans le Nouveau Testament. Les Juifs auraient donc falsifié les Écritures tout en laissant Ésaïe, David et bien d'autres témoigner contre eux en faveur des chrétiens. Des pensées terribles me hantaient. Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas falsifié ces passages? Pourquoi les ont-ils laissés alors même qu'ils constituent une preuve irréfutable de leur tort face aux affirmations des chrétiens? À leur place, ce sont ces textes-là que j'aurais arrachés, ou tout au moins modifiés, si vraiment j'avais voulu falsifier la Bible. L'accord parfait des deux testaments, en dépit des divergences entre leurs adeptes respectifs, ne cessait de m'interroger. Je ne faisais pas ces constatations de gaieté de cœur. Elles s'infiltraient dans mon être, dans ma tête, et s'imposaient à ma raison. Et chaque fois, c'était des angoisses, c'était autant d'aiguillons qui me transperçaient. Pourquoi, me demandais-je encore, les Juifs n'ont-ils pas supprimé aussi tous les passages qui les montrent sous un jour horrible, puisque, en tant que musulman, c'est l'accusation que je porte contre eux? Qu'ont-ils donc falsifié si ce qui reste dans la Bible est extrêmement sévère à leur égard? Moi, à leur place, j'aurais ajouté des éléments à mon avantage et retiré ce qui me montrait tel qu'aucune nation ne voudrait paraître idolâtre, rebelle, pécheur, châtié. Face à toutes ces observations, c'était le Coran qui se trouvait remis en question. C'était des évidences que je ne m'avouais pas. Au contraire, je luttais, je cherchais encore les preuves attestant que le Coran avait raison. Je me rendais à nouveau auprès de musulmans aguerris. Mon âme criait au secours tout en restant sans voix. Je ne pouvais pas, en effet, par crainte, exprimer clairement les doutes qui m'assaillaient, et je ne trouvais jamais d'aide. C'est qu'il ne me fallait pas de fausses preuves, mais des arguments tangibles et vérifiés qui soient convaincants et ne se dissipent pas au moindre examen. Certes, quand j'allais vers les musulmans, ils me fournissaient des preuves, mais elles prêtaient à sourire et ne pouvaient apaiser mon âme torturée. Elles ne me satisfaisaient plus. C'étaient des accusations ou des affirmations gratuites qui ne résistaient pas une seconde à la critique des chrétiens. En fait, ce n'était plus pour convaincre les autres de leur erreur que je les cherchais, mais pour me prouver à moi-même que j'étais dans le vrai. Tout cela, je le devinais, je le ressentais, je ne me l'avouais pas.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
En fait, je découvrais que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament déroulaient le même plan, qu'ils étaient traversés par le même souffle. Le Nouveau Testament s'inscrit dans la continuité de l'Ancien. Il est l'accomplissement de l'alliance et des promesses faites à Abraham, renouvelées à David et réalisées en Jésus. Un même et unique projet de Dieu pour sa création, et en particulier pour les hommes, se dévoile dans la Torah, s'approfondit dans les prophètes et les psaumes pour atteindre son achèvement parfait dans les évangiles et les autres livres du Nouveau Testament. Le Coran, il me fallait bien le reconnaître, n'était pas dans cette continuité. Je voyais qu'il bifurquait à 90 degrés par rapport à l'Ancien Testament et au Nouveau. Comment les Juifs auraient-ils tordu la Torah les psaumes et les prophètes afin de les aligner avec le Nouveau Testament qu'il ne connaissait pas. Il aurait fallu qu'il soit complice des chrétiens, et c'était impossible. Cette dernière question me hantait. En même temps, sans jamais envisager de devenir chrétien, je pensais parfois spontanément à ma famille. Voilà de quoi les rendre fous, les tuer. Voilà de quoi couper tout lien. Comment réagiraient-ils? Mais cela les anéantirait, ce serait la fin de tout. Mort pour nous sauver. Certains hommes touchés dans leur cœur s'ouvrent immédiatement et embrassent ce qui les a touchés. D'autres, parce que cela leur coûte et exige un renoncement à leurs certitudes et assurances humaines, luttent et s'attachent à ce qui reste peu clair pour eux, dans l'espoir d'en faire leur planche de salut. C'est ainsi sans doute que réagissent beaucoup de personnes face à la vérité. Il n'est pas facile de l'accueillir, car elle ébranle nos certitudes et nous met en danger. Elle nous invite à nous remettre en question, pour ne pas dire à tout remettre en question. En même temps, elle est douce et désirable. Elle attire parce qu'elle est la vérité et fait peur parce qu'elle enjoint de se dépouiller de soi, de ce qui fait qu'on est soi. Elle exige l'aveu de nos errements. Voilà pourquoi je m'accrochais à tout ce qui me permettait de croire que j'étais dans le vrai. Quand l'occasion se présentait, c'était la mort de Jésus, fondement du christianisme, que je voulais saper. Ou alors, c'était le grave blasphème d'après lequel il était le Fils de Dieu, voire Dieu lui-même. Mais pendant que Jésus était sur la terre, qui gouvernait le monde ? Demandais-je aux chrétiens en guise de défi. Il était ancré dans ma tête de musulman qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que le monde devait tourner tout seul si Jésus était Dieu. Les chrétiens me disaient que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés. Mais pour moi, même si le péché commençait à m'apparaître sous un jour nouveau, laisser mourir son prophète me semblait impliquer tout bonnement une défaite de Dieu. L'une des preuves de la vérité de l'islam n'était-elle pas précisément le soutien apporté par Allah à son prophète Mohammed en vue de ses victoires militaires? Comment Dieu pouvait-il ainsi laisser mourir Jésus, son envoyé? N'était-il pas capable de le protéger? Mourir de cette manière, c'était subir la honte, c'était aussi avouer la défaite divine. Voici la réponse de Daniel alors que nous étions ensemble dans son bureau. Mais non, la mort de Jésus n'est pas une défaite de Dieu. Ce serait le cas si sa mort lui avait été imposée. Or, il ne l'a pas subie malgré lui, c'est volontairement qu'il a donné sa vie. Jésus lui-même a dit en parlant de sa vie, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean chapitre 10, le verset 18. Tu vois donc que c'était dans le plan de Dieu même. Tu sais, Jamel, les apôtres qui accompagnaient Jésus était scandalisé comme toi d'entendre de la bouche de Jésus qu'il devait mourir. Mais ils ont fini par comprendre que c'était la volonté de Dieu pour le salut de tous. Laisse-moi te dire ce que disait l'apôtre Pierre, par exemple, après avoir vu Jésus ressuscité. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Actes, chapitre 2, les versets 22 à 24. Et pourquoi Dieu aurait-il voulu que Jésus meure de cette mort infâme par-dessus le marché? Je ne comprends pas. Dieu l'a voulu, car c'était le seul moyen pour que nos péchés puissent être pardonnés. Rappelle-toi ce que je t'ai déjà dit plusieurs fois. Le péché ne peut être expié que par la mort du coupable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Comme le châtiment de notre péché a été notre mort spirituelle, c'est-à-dire notre séparation éternelle d'avec Dieu, soit il nous laissait loin de lui, soit il nous pardonnait. Mais il ne peut pas nous pardonner sans que le jugement du péché soit quand même exécuté. Jésus est donc mort à notre place, lui qui était innocent pour nous les coupables. La mort de Jésus n'est pas la défaite de Dieu, c'est le moyen choisi par Dieu pour nous sauver. Elle est la plus grande des preuves de son amour, comme il le dit lui-même dans l'évangile de Jean. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Tu sais, Dieu t'aime. Il veut te sauver afin que tu le connaisses. Mais il est saint et tu ne peux pas l'approcher sans que tes péchés soient d'abord effacés. Seul le sang de Jésus mort sur la croix peut les effacer. Crois en lui pour être pardonné. Daniel, mes péchés peuvent m'être pardonnés grâce à mes prières, grâce à mes œuvres qui plaisent à Dieu. Voilà ce que je répliquais, essayant de me convaincre moi-même de ce que je disais. Daniel poursuivait. Tu sais, tu peux faire tout ce que tu veux. Jamais Dieu ne te pardonnera en raison de choses que tu auras faites. Les bonnes œuvres que tu accomplis ne sont pas des œuvres bonnes pour lui. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elles sont accomplies par des mains souillées par le péché. C'est Dieu lui-même qui le dit. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Ésaïe, chapitre 64, le verset 5. De fait, aucun de nous ne peut plaire à Dieu, puisque nous sommes tous pécheurs et ennemis du Seigneur. Les mains qui font des offrandes à Dieu doivent être des mains purifiées. Ton péché doit être effacé et pardonné d'abord. Ensuite seulement, tu pourras faire du bien qui comptera aux yeux de Dieu. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois et je te le répète encore. C'est par la foi seul en Jésus-Christ, seul et en sa mort, sacrifice offert pour tes péchés, que Dieu te pardonnera tes péchés. Si tu ne crois pas, tu mourras dans ton péché. Viens au Seigneur Jésus, crois en lui et demande-lui pardon. Je sortais de moins en moins indemne de ces discussions. Ma résistance s'érodait face à la pertinence de ce que j'entendais. Ces paroles de vérité accomplissaient leur œuvre en moi, mais alors que d'autres leur auraient fait bon accueil, j'étais incapable de les embrasser. C'était traumatisant de me rendre compte que le roc solide sur lequel étaient posés mes pieds était bien plus fragile que je ne le pensais. Plus encore, il mollissait sous mes pieds. Je m'enfonçais dans ma détresse comme le voyageur imprudent dans des sables mouvants. Cependant, je ne pouvais pas m'abandonner à la vérité. On ne peut pas simplement s'asseoir et se dire qu'on s'est trompé. C'est l'aveu que l'on ne se fait jamais à soi-même. Personne en réalité n'aime voir qu'il s'est trompé. Cela correspond à un rejet de vous-même, de votre identité, un désaveu de ce que vous êtes. Et ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit de réalités essentielles qui vous ont été façonnées et qui constituent votre être intérieur. Et si tout cela était vrai? De telles pensées fulgurantes, telle une flèche jaillie de nulle part, me perçaient l'esprit. Des mots, des paroles échangées avec Daniel, avec sa femme ou avec d'autres chrétiens me hantaient la nuit. Je devais immédiatement les chasser, de peur de commettre le péché d'association, péché impardonnable. Pareil à un soldat dans ses derniers retranchements, je cherchais vainement des munitions pour leur résister encore. Que dirait ma famille? Dans quelle angoisse les mettrais-je? Quel malheur provoquerais-je pour eux? Bien malgré moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à leur réaction. C'était devenu même une obsession. Quitter l'islam, c'est renier votre famille, votre patrie. C'est assurément couper les liens, provoquer leur colère, risquer une rupture totale. Le prix me paraissait trop élevé. C'était toujours le côté où se trouvait ma famille qui faisait pencher la balance. Comme vous avez pu en juger par nos lectures, la décision qui devait permettre à Jamel Attar de réaliser en quelque sorte la volte-face que le titre du livre suggère, « Je croyais en Issa, j'ai rencontré Jésus ». Cette décision n'a pas été facile à prendre. Mais nous arrêtons là la lecture de ce jour. Le dernier épisode nous donnera plus d'informations et l'auteur vous donnera des précisions et de la documentation qui vous permettront d'en comprendre davantage. À bientôt et n'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+, mardi et mercredi à 21h, rediffusion lundi et mardi à 6h. Toutes les émissions sont en podcast sur le site de la radio. À bientôt pour le dernier épisode du livre.